bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. Une nouvelle enquête judiciaire a été ouverte après la diffusion de vidéos montrant un policier frapper un manifestant ce week-end. Il aura fallu moins de 24 heures donc pour ouvrir cette enquête. Une rapidité qui fait suite au changement de ton de l'exécutif sur le sujet. Nous y revenons dans un instant. Vous comprendrez ensuite pourquoi les internes font de nouveau grève ce lundi dans les hôpitaux. En travaillant 56 heures par jour, ils demandent une meilleure reconnaissance. D'autant que le travail administratif pourrait s'accumuler. Ils travaillent 56 heures par semaine. L'espoir d'un cessez-le-feu en Libye. Hier, 11 dirigeants réunis à Berlin ont signé un texte en ce sens. Renforcement de l'embargo sur les armes, promesse de non-ingérence. Ce n'était pas gagné, vous l'entendrez. Une enquête judiciaire a donc été ouverte par le parquet de Paris hier. Idem au sein de l'IGPN, la police des polices. Enquête pour violence par personne dépositaire de l'autorité publique. Il s'agit en fait d'analyser ce qu'il s'est passé lors d'une manifestation contre la réforme des retraites ce week-end. Des images ont choqué de nombreux internautes, Corinne Audouin.
La vidéo dure 40 secondes. On y voit un jeune homme au sol, couché sur le dos. Son visage est en sang. Sans que l'on comprenne pourquoi, le policier qui le maintient lui assène deux coups de poing au visage. Une autre vidéo, tournée par l'AFP, montre le même manifestant, face au sol, en train d'être menotté. Son visage grimace de douleur quand le policier lui appuie sur le bras avec son genou. Selon le syndicat Alliance, le manifestant aurait craché au visage du policier, ce qui est impossible à voir sur la vidéo. Fait rare, la préfecture de police a ordonné une enquête interne moins de 24 heures après les faits pour faire la lumière sur ce qui s'est passé. Une réactivité qui fait écho aux propos tenus par l'exécutif la semaine dernière. Emmanuel Macron avait ainsi pointé des comportements qui ne sont pas acceptables. Christophe Castaner, s'il refuse toujours d'employer l'expression « violence policière », a rappelé lors de ses vœux à la police le devoir d'exemplarité des forces de l'ordre. Un changement de ton inédit alors que le ministère de l'Intérieur doit annoncer prochainement un nouveau schéma national du maintien de l'ordre.
Pas d'affrontement hier dans les rues parisiennes, mais un différend sur les chiffres. Après la manifestation contre la PMA pour toutes les femmes, à l'appel du collectif Marchons Enfants, le cabinet de comptage Occurrence évoque 26 000 personnes mobilisées, 41 000, dit la préfecture de police. De leur côté, les organisateurs ont refusé de donner un chiffre en dénonçant des estimations fantaisistes. La mobilisation contre la réforme des retraites, elle marque le pas dans les transports ce lundi, après plus de 40 jours de perturbations. Arrêtons-nous maintenant à l'hôpital où le personnel n'en finit pas de craquer. Ce lundi, les internes se mobilisent à nouveau avec des manifestations et des piquets de grève dans plusieurs hôpitaux de France. En moyenne, les internes passent 56 heures par semaine à l'hôpital pour 1580 euros par mois. Chiffre donné par leur intersyndicale, l'ISNI. 56 heures par semaine donc, dont une bonne partie est consacrée à des tâches administratives au lieu d'apprendre à soigner les malades. Cela ne va pas s'arranger, déplore Léonard Corti, secrétaire général de l'ISNI. Il évoque la progression de la chirurgie ambulatoire qui aggrave les choses, dit-il.
La chirurgie ambulatoire, ça pèse déjà parce que ça crée un énorme turnover dans les services. Parce qu'en fait, c'est des patients qui rentrent le matin et qui doivent sortir avant la fin de la journée. Donc, il faut faire les papiers d'entrée, s'occuper du patient sur sa journée, donc c'est-à-dire vérifier qu'il est bien revenu du bloc opératoire, qu'il était bien à jeun avant d'y aller, vérifier qu'il va sortir dans de bonnes conditions, parce que le problème de la chirurgie ambulatoire, c'est qu'en fait, on fait sortir les gens rapidement de l'hôpital, mais il faut quand même prévoir les soins à domicile. Donc très souvent, les internes se retrouvent à passer leur après-midi à contacter des infirmières dans le secteur où vit le patient pour s'assurer qu'il aura bien les pansements faits, qu'il y aura bien des personnes qui seront présentes, notamment chez des patients qui peuvent être potentiellement isolés, qui n'ont pas forcément de proches. Alors on a l'impression que l'hôpital travaille moins parce que du coup il y a moins de patients qui dorment à l'hôpital, mais après il y a un énorme travail à faire justement pour organiser la prise en charge extra-hospitalière qui souvent retombe sur les internes. Mais ça techniquement c'est pas le rôle de l'interne, ça serait plutôt le rôle soit des secrétaires médicales, soit des assistantes sociales.
Des propos recueillis par Tara Schlegel. Les élèves de première au lycée s'apprêtent à passer les épreuves communes de contrôle continu pour leur baccalauréat. C'est une nouveauté de la réforme du bac qui entre en vigueur cette année. Mais certaines épreuves sont déjà menacées de boycott par les enseignants qui refusent la réforme. À Clermont-Ferrand ce week-end, des épreuves ont été annulées à cause de manifestations. Le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, prévient « il y aura des poursuites ». À la culture, le ministre Franck Riester, lui, annule ses vœux. Il devait les présenter ce soir, mais il n'en sera rien à cause d'un appel à manifester lancé par la CGT. Un ministre absent donc, et un monde de la culture qui multiplie les grèves et les actions symboliques. Samedi encore, l'orchestre de l'Opéra de Paris a donné un concert sur le parvis de l'Opéra Garnier contre la réforme des retraites. Mais la réforme dans le monde de la culture ne se cantonne pas à cette réforme des retraites. La colère ne se cantonne pas à cette réforme. Le 5 décembre dernier, une grève a commencé au sein des salariés du Mobilier National. Ils sont chargés de conserver et d'entretenir le mobilier de l'Élysée, des ministères, des préfectures et des ambassades, et ils ont déposé leurs outils à terre en signe de contestation. Ils regrettent en fait le désengagement de l'État à leur côté, Cécile de Kervas-Doué.
Depuis le XVIIe siècle, le Mobilier National restaure et crée des meubles d'exception pour plus de 600 lieux publics. Chaque année, il coûte 5 millions d'euros de fonds publics. Et c'est cette enveloppe que le ministère de la Culture et le Premier ministre veulent réduire en transformant la structure en établissement public, c'est-à-dire un établissement qui pourra à l'avenir avoir ses ressources propres. Pour cette raison, l'institution loue ses réserves et ses meubles pour les défilés d'Hermès ou pour des soirées de gala d'entreprises privées. Pour la première fois cette année, ces artisans d'art ont aussi dû créer une gamme de meubles pour la boutique de design Roset, qui sort ce vendredi. Nicolas Mancel est menuisier en siège. C'est un métier classé au patrimoine culturel immatériel. Il est aussi délégué CGT.
Nous, ce qui nous inquiète en fait, c'est que c'est maintenant la marchandisation et la commercialisation de la culture. Ce qui s'affiche chez nous désormais, hein, parce que le Mobilier National vient de lancer une gamme de meubles en coédition avec une marque de meubles du marché privé. Nous, ce qui ne dérange pas, c'est de faire d'édition pour des intérêts publics, pour meubler des grandes institutions de l'État, que ce soit des écoles, des hôpitaux, quoi que ce soit, où là on peut agir dans le domaine du public. Après, quand même, quand c'est des agents du public qui font de la création pour se retrouver dans des catalogues commerciaux à but privé qui vont finir par se retrouver sur le bon coin, on a des craintes que la commercialisation prenne le pas des savoir-faire. Parce que nous, on a des métiers rares, en fait.
Des métiers qui créent des pièces uniques, patrimoniales, pas assez rentables donc pour le commerce. Contactée, la direction du Mobilier National assure de son côté que l'objectif de cette politique d'ouverture au privé n'est pas de faire de l'argent, mais de pouvoir soulager les dépenses et surtout de pouvoir financer des projets de création, notamment via le développement du mécénat, qui représente aujourd'hui 30% du budget de l'institution.
Comme un air de déjà-vu face au conflit en Libye. Hier soir, une conférence était organisée à Berlin avec 11 dirigeants. Y ont été actés un renfort de l'embargo sur les armes, mais également la fin par les puissances étrangères de toute ingérence militaire dans ce conflit libyen. Des mesures qui avaient pourtant été décidées il y a 9 ans maintenant, mais qui n'ont jamais été tenues jusque-là. Qu'importe, le moment à Berlin a tout de même été salué, Ludovic Piétenu.
Nous avons fait en sorte que tous les participants parlent d'une seule voix, se félicite Angela Merkel lors de la conférence de presse finale qu'elle tient seule aux côtés d'Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, et Rassam Salamé, son représentant spécial pour la Libye. Tous les participants s'engagent à respecter l'embargo sur les livraisons d'armes et à faire en sorte qu'un cessez-le-feu durable s'installe. Ce n'était pas chose gagnée d'avance, tant y compris au sein des Européens, entre Paris et Rome par exemple, les points de vue divergeaient, mais Angela Merkel estime que désormais les Européens, eux aussi, ont parlé d'une seule voix.
Toute la phase préparatoire a montré que les Européens se sont vraiment rapprochés. Nous avons eu un engagement vraiment incroyable. Que les Européens aient pu s'aligner dans un sens ou dans un autre a également contribué à notre succès. C'est pourquoi j'ai une bien meilleure impression sur ce point qu'il y a 1 ou 2 ans.
En étant unie, la diplomatie européenne a su peser face à la Russie et la Turquie qui soutiennent chacun l'un des deux rivaux libyens. Il faudra que cet accord s'installe dans le temps et soit véritablement mis en œuvre. Cet accord de Berlin crée une commission intitulée 5+5 qui oblige tous les participants à vérifier régulièrement le respect de la parole donnée.
Et je précise qu'en Libye, depuis la reprise des combats entre les camps rivaux en avril 2019, plus de 280 civils et 2000 combattants ont été tués. Selon l'ONU, plus de 170 000 habitants par ailleurs ont été déplacés. Au Liban, de nouvelles violences ont éclaté hier. Dans la capitale Beyrouth, la police a fait usage de canons à eau contre des manifestants qui jetaient des pierres. 90 blessés ont été recensés. La veille, samedi, ce sont près de 370 personnes qui avaient été blessées dans ces manifestations contre le pouvoir jugé corrompu. En bref, encore, notons que 1% des personnes personnes les plus riches de la planète possèdent deux fois plus de richesses que 90% de la population mondiale. C'est le résultat du rapport annuel d'Oxfam publié ce matin. Une concentration des richesses, donc, au détriment du plus grand nombre, et notamment des femmes, regrette l'ONG, à la veille de l'ouverture du Forum économique de Davos. Le temps ce lundi sera globalement ensoleillé malgré quelques nuages bas près de la Méditerranée et sur l'est du pays. Comptez moins 1 ce matin à Clermont-Ferrand, 1 degré à Lille, 2 degrés à Strasbourg, Lyon et Bayonne, 3 à Paris et Bordeaux, 10 degrés à Nice.